aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Aude Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91,3 ou 0.3 comme on veut, et sur internet auderadio.fr. À ta santé, une émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui je reçois Valérie Sébastiani Vigneron qui nous parle de la graphothérapie. Peux-tu te présenter en quelques mots Valérie ?
Bonjour Juliette, et oui, avec grand plaisir, je vais me présenter. Donc Valérie Sébastiani Vigneron, 49 ans, et je suis graphothérapeute avec un parcours, assez simple scolairement en tous les cas. Et je suis aussi psychopraticienne.
D'accord. Alors, nous allons effectivement commencer avec une première pause musicale que tu as choisie pour ton émission. On écrit sur les murs de Demis Roussos.
Dans l'espoir, dans les regards, donnons-leur un cri, car dans la nuit, tout s'épargne.
pour les auditeurs qui nous rejoignent, aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Valérie Sébastiani Vigneron nous parle de graphothérapie. Explique-nous pourquoi la graphothérapie, Valérie.
Alors la graphothérapie, sans rentrer pour l'instant dans les détails et vous expliquer ce que c'est, mais pourquoi j'y suis venue, c'est parce que je travaillais avant dans les écoles et j'ai vu beaucoup d'enfants en souffrance par rapport à leur écriture. Et moi, j'aime bien écrire et j'aime bien transmettre. Et puis, il y a aussi des adultes, mais ça, on y reviendra aussi. Et de les voir souffrir avec leur écriture, ça m'a amenée à ça. Et il faut savoir que j'y suis venue par hasard. Dans mon dernier poste où je travaillais, la directrice a eu un flyer d'un institut bordelais où il y avait marqué toutes sortes de métiers, dont graphothérapeute, ce que je suis donc aujourd'hui. Et je voulais savoir ce que c'était. Et ça, je vais l'expliquer après. Et du coup, ça a titillé ma curiosité, parce que je suis curieuse comme une vieille chouette.
Ah
eh oui, d'où le nom d'ailleurs de mon entreprise, La Chouette Écriture,
d'accord.
Tu vois, c'est en lien. Et du coup, j'ai titillé ma curiosité et du coup, je me suis formée à ça.
C'est super. Alors, justement, qu'est-ce que la graphothérapie ?
La graphothérapie, alors c'est une méthode de rééducation du geste graphique. Elle vise à corriger une écriture qui est dysfonctionnelle pour la rendre plus fluide, plus efficace et moins coûteuse en énergie pour celui qui écrit. Évidemment, moins douloureuse aussi, parce qu'effectivement, il y en a qui sont vraiment avec des grosses douleurs pour écrire. Elle s'appuie sur une approche globale de la personne en tenant compte de sa posture, de sa motricité fine, de son tonus musculaire, mais aussi de sa dimension psychologique, car les blocages face à l'écriture peuvent avoir des origines émotionnelles. Alors, à l'origine, l'intérêt pour l'écriture comme objet d'étude, elle remonte au 19e siècle. Bon, c'est pas si loin que ça.
Non, ça va.
On est au 21e, mais bon, c'est pas si loin quand même. Et notamment avec le développement de la graphologie en France. Mais c'est au XXe siècle que naît véritablement la graphothérapie comme discipline à part entière, fondée sur des bases neurologiques et psychomotrices solides.
D'accord.
Le docteur Julien de Ajuriaguera, alors qui est décédé depuis 1993, qui est neurologue et psychiatre d'origine basque espagnole, il a été formé à Paris, il est universellement reconnu comme le père fondateur de cette graphothérapie moderne. Et c'est dans les années 50 et 60 qu'il a mené des travaux pionniers justement sur le développement de l'écriture chez l'enfant et sur la dysgraphie. Il montre que l'écriture est un acte moteur complexe qui engage tout le corps et pas seulement la main et que ces troubles peuvent et doivent être rééduqués. Lui, il a créé ce qu'on appelle une échelle d'évaluation de la dysgraphie et qui a posé les bases des outils utilisés encore aujourd'hui.
Ouais, je comprends.
Comme par exemple, moi, à mon cabinet, j'utilise l'échelle ADE, approche dynamique de l'écriture, mais évidemment, il y en a encore d'autres. Après lui, il y a encore des chercheurs et des praticiens comme Hélène Platio ou Edith Calmy qui ont contribué à structurer la pratique et la formation en graphothérapie en France. Mais attention à ne pas confondre, parce que souvent, quand on m'appelle, on me dit « Oui, alors, c'est pour la graphologue.
Ah, »
Sauf que je ne suis pas graphologue.
C'est une autre discipline.
C'est une autre discipline. Moi, je suis graphothérapeute. Alors, du coup, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu sais la différence, au final ?
J'ai envie de te dire que la graphologie, effectivement, c'est peut-être une manière d'identifier... la personnalité d'un individu. Voilà, ça c'est très... chez moi, c'est très minimaliste comme définition. Donc explique-moi justement.
Alors en fait, ce sont donc deux professions qui ont en commun de s'intéresser à l'écriture, puisqu'il y a le préfixe grapho,
oui.
Du coup. L'écriture manuscrite. Mais alors, nos objectifs, que ce soit graphothérapeute ou graphologue, ne sont pas du tout les mêmes. Les méthodes aussi et leurs cadres sont radicalement différents, forcément, puisque... Le graphologue, lui, il interprète l'écriture. Il analyse les caractéristiques graphiques, la pression, l'inclinaison, la taille des lettres, les liaisons, les marges, pour en déduire des traits de personnalité, un profil psychologique ou un état émotionnel. La graphologie est utilisée en France comme, dans certains cabinets de recrutement ou pour des bilans de personnalité. Sa validité scientifique est cependant très controversée. Et elle n'est pas reconnue comme une science pour la communauté académique. Il faut quand même savoir que les graphologues étudie aussi les écritures de certains criminels, j'ai
tout
envie
à
de
fait.
Dire. Hein. Elles sont souvent tout expertes, les graphologues, auprès des tribunaux. Alors que nous, les graphothérapeutes, on ne cherche pas à interpréter l'écriture, mais plutôt à la rééduquer. Notre regard à nous, il est thérapeutique, il est fonctionnel. À partir d'un bilan graphomoteur complet, il va identifier les dysfonctionnements, la mauvaise tenue du crayon, les crispations, les lettres qui sont mal formées, le rythme haché, comme les écritures cardiaques, tu vois les
oui, je vois, tout à fait. Hachuré un petit peu,
oui.
Instable, incertaine.
C'est exactement, c'est ça. Et ça propose, donc nous, on propose des programmes de rééducation qui sont progressifs, personnalisés. On travaille d'abord sur le corps dans sa globalité, la posture assise, le relâchement des épaules, du bras, oui. du poignet. Et puis, on va proposer des exercices graphiques, parce que sinon, ça ne sert à rien. En grand format, tu vois, donc moi, dans mon ancien cabinet où j'étais, je mettais une grande feuille sur les vitres et on travaillait voilà, sur des grandes, grandes feuilles. Aujourd'hui, j'ai un grand tableau, donc ça permet de pallier et de ne plus scotcher sur les vitres.
Oui, hein. C'est pas plus mal, finalement.
C'est pas plus mal, on est bien d'accord. Et puis après, on revient progressivement à une écriture sur une feuille.
Oui.
Et nous, en graphothérapie, enfin, en tous les cas avec moi, on travaille sur du format A5, donc c'est la moitié d'une feuille classique, ce qu'on pourrait aussi interpréter comme les petits cahiers, les petits formats, les 17 par 22.
Oui, je vois.
Voilà. Et on travaille sur des feuilles sans ligne.
D'accord.
Donc on n'a aucun repère visuel puisqu'il n'y a pas de ligne.
Ouais.
Mais c'est très bien et ça fonctionne super bien.
D'accord.
En fait, on pourrait résumer, c'est que le graphologue, lui, il va lire l'écriture pour comprendre la personne, ce que tu disais tout à l'heure.
Oui.
Tandis que le graphothérapeute, nous, on va soigner l'écriture pour aider la personne à aller mieux, fonctionner au quotidien. L'un a une visée plutôt interprétative et l'autre une visée rééducative, c'est-à-dire le graphothérapeute, c'est ça.
Je comprends.
Et ce sont deux disciplines qui partagent un outil commun, l'écriture manuscrite, il n'y a que ça doré de toute façon, mais qui n'ont ni les mêmes méthodes, ni les mêmes finalités, ni le même cadre épistémologique. Voilà, et j'en ai fini avec justement ce que c'est que la graphothérapie.
D'accord. Alors, justement, tu allies deux disciplines, la graphothérapie que tu viens de nous expliquer, la neurologie fonctionnelle. Mais qu'est-ce que c'est que la neurologie fonctionnelle ? Explique-nous.
Alors oui, je me suis formée d'abord en graphothérapie et j'ai fait la rencontre d'une neurologue qui m'a formée justement à la neurologie fonctionnelle. Et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Non pas dans une perspective de maladie structurelle comme une tumeur ou une liaison visible à l'IRM, mais dans une perspective de dysfonctionnement.
D'accord.
C'est-à-dire des circuits neurologiques qui ne travaillent pas de manière optimale sans qu'il y ait nécessairement de liaison organique détectable. Donc effectivement, avant de venir me voir, pas la peine d'aller faire une IRM du cerveau. Hein. Je rassure tout le monde. Voilà.
Heureusement.
Ce n'est pas la peine, puisque ce n'est pas ces liaisons-là que je recherche.
Oui.
Je ne suis pas médecin, donc de toute façon...
Ce n'est pas l'objet de la visite dans ton cabinet.
Exactement. Alors, l'origine et l'histoire, justement, de cette neurologie fonctionnelle, elle trouve ses racines dans des travaux du neurologue américain Robert Melillo et surtout du chiropracteur et neurologue Ted Carrick, considéré comme l'un de ses pères fondateurs modernes à partir des années 80-90. Donc, ce n'est pas vieux non plus, au final. Ça a quand même 40 et quelques années, j'avoue. Carrick, lui, développe une approche clinique fondée sur l'idée que le cerveau est un organe plastique capable de se modifier et de se réorganiser tout au long de la vie, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Il postule que des déséquilibres fonctionnels entre les deux hémisphères cérébraux ou entre différentes régions du cerveau peuvent être à l'origine de nombreux troubles et que des stimulations ciblées peuvent corriger ces déséquilibres. Et oui, notre cerveau, il est coupé en deux.
Oui.
Et il faut savoir que, moi je ne savais pas, je l'ai appris justement, c'est la partie gauche de notre cerveau qui commande notre partie droite de notre corps.
Oui.
Et l'inverse. Donc on est quand même plutôt pas mal... comment on va
quoi,
dire
équipé,
voilà, on va
agencé.
Dire équipé. Ah, voilà, je trouve ça très bien, moi. Je dirais équipé, effectivement, notre cerveau, voilà, ça gère en latéralité croisée, je trouve ça exceptionnel. Comme quoi, on est intelligent au final. Hein.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Merci. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, la neurologie fonctionnelle, elle part du principe que le cerveau a besoin d'être stimulé pour fonctionner correctement et que le manque de stimulation de certaines zones peut entraîner des troubles variés. Troubles de l'attention, difficultés d'apprentissage, troubles de l'équilibre, douleurs chroniques, troubles du mouvement et même certains troubles du spectre autistique ou les dys, comme par exemple la dyslexie, la dyspraxie, la dysgraphie. En fait, tous les troubles dys, ça veut dire qu'il y a un petit dysfonctionnement dans une toute petite partie infime de notre cerveau. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, mais c'est surtout par un manque de stimulation.
Oui, d'accord.
Nous. Alors, le praticien en neurologie fonctionnelle évalue d'abord le fonctionnement neurologique du patient à travers un bilan complet, réflexes, équilibre, coordination, mouvement oculaire, sensibilité, tonus musculaire. À partir de cette évaluation, il va lui identifier les zones du cerveau du système nerveux qui semblent sous-actives ou déséquilibrées, qui proposent des protocoles de stimulation ciblés pour les réactiver. Ces stimulations peuvent être visuelles, auditives ou vestibulaires, liées à l'équilibre, proprioceptives, liées à la perception du corps dans l'espace ou tactile. Alors moi, je ne suis pas praticien à 100% en neurologie fonctionnelle. Mais par contre, je vais utiliser une petite partie pour que les personnes qui viennent me voir récupèrent la verticalité qu'ils n'ont pas acquise, la latéralité visuelle en tous les cas, et aussi la verticalité visuelle qui sont nécessaires dans l'écriture. Donc moi, j'en utilise qu'une petite partie infime, parce que la neurologie fonctionnelle, c'est quand même un champ d'application énorme.
Ouais, c'est très étendu.
C'est très étendu.
Je comprends.
Mais je suis graphothérapeute, donc je ne vais pas m'éparpiller sur tout le reste, mais juste...
tu agis dans ton domaine de compétences.
Exactement.
Et c'est très bien.
Voilà. Alors, il faut savoir que la neurologie fonctionnelle, elle est utilisée dans les domaines très variés. La rééducation après un AVC, justement, ou un traumatisme crânien, la prise en charge des troubles dys chez l'enfant, chez l'ado et l'adulte.
Oui.
La gestion des douleurs chroniques, les troubles vestibulaires et de l'équilibre, la performance sportive et cognitive, et même l'accompagnement de certains troubles neurodéveloppementaux.
D'accord.
Voilà, tu en sais plus maintenant.
Ah oui, c'est énorme. Je pense que là, il va falloir que je compulse.
Et va surtout falloir que peut-être réécouter le podcast, tu vois.
Tout à fait, ce que je proposerai tout à l'heure d'ailleurs. Donc, justement, Valérie, quelles sont les raisons pour lesquelles on vient consulter une graphothérapeute ?
Alors, on vient en général me consulter pour plusieurs choses. Soit on a une écriture qui est lente, donc ça veut dire moins de 100 caractères à la minute. Soit une écriture précipitée, comme tu sais, les personnes qui n'ont jamais le temps, par exemple les médecins, et qui, eux, écrivent en moyenne entre 195 et plus de 200 lettres à la minute. Ce qui ressemble à...
Non, du coup, après, rien n'est plus défini et...
Ça ressemble à un électrocardiogramme.
Oui.
Voilà.
voilà. Identifiable par les pharmaciens, je pense, encore.
Oui, voilà, qui ont dû avoir une formation quelque part pour pouvoir lire tout ça. On vient aussi souvent parce qu'on a mal, justement, à l'effort d'écrire. Ouais. Et pas forcément sur la durée. Mais, par exemple, moi, les tests durent 2 fois 1 minute. En vitesse normale et une fois en vitesse normale et une fois en vitesse accélérée. Et là, du coup, ceux qui ont mal au bout de 45 secondes, ils ont tendance à lâcher le stylo, le crayon, parce qu'ils ont mal.
Bien sûr.
On vient me voir parce qu'il y a une mauvaise tenue du stylo, où il y a parfois des clichés. C'est-à-dire que souvent, on m'appelle pour me dire alors mon enfant, il écrit mal, mais c'est normal, hein, il est gaucher.
Ah, ça, c'est terrible. C'est un impact terrible sur l'enfant, et puis,
sûr. Ouais. Et ça arrive souvent. Ou alors, j'ai des parents d'ados qui me disent « Ah ben, il est droitier, mais il écrit comme un gaucher. »
Incroyable.
Alors qu'en fait, on écrit tous de la même façon.
Bien sûr.
C'est le même geste pour tous.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est très compliqué. On vient pour ça, parce que l'écriture, elle est illisible, soit trop grosse, soit trop petite comme les pattes de mouche.
Ouais.
Alors, trop grande ou trop petite, c'est lié aux quatre pattes, en fait.
C'est-à-dire
l'étape motrice du quatre pattes qui a été mal faite. Et donc, il y a une bonne façon de faire du quatre pattes, ce qui permet de récupérer cette verticalité visuelle. Et quand on n'en a pas fait, ça n'aide pas.
D'accord.
Et puis, des fois, elle est trop large. Tu sais, par exemple, même chez les adultes, ça arrive. Pour écrire une phrase de 4 mots, ils ont besoin de 3 lignes, quoi.
C'est pas faux. Peut-être qu'ils ont des problèmes de vue aussi, qui sait.
Peut-être, mais ils ont surtout un problème de latéralité.
Oui, je comprends.
Et là, du coup, c'est lié à l'étape motrice du rampé. Et c'est pour ça que, ben, on va le voir dans les prochaines questions, comment ça se passe vraiment.
Ouais, c'est incroyable.
Un bilan, mais et ça, c'est lié à la neurologie fonctionnelle, tu vois.
D'accord.
Donc, tout ça, ça m'aide. Et c'est pour ça que j'ai allié les deux pour justement mieux comprendre la personne qui vient et mieux l'aider.
Je commence à en savoir un petit peu plus
du coup,
ce fait.
Voilà. Et puis, on vient aussi souvent parce que ben, peut-être que tu as connu ça, toi, en étant plus jeune à l'école ou au collège, où on t'a dit que c'était pas soigné, que ton écriture était... Ah, tu me fais signe de la main gauche, donc tu es gauchère, du coup.
Exactement, contrarié, qui plus est.
Ah là là, alors j'espère pour toi que tu as récupéré ta latéralité de gauchère. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que du coup, souvent dans les cahiers, on voit ces petites remarques, travail sale, écriture illisible...
Ouais.
Du coup, ça n'encourage
pas.
Oui,
ne s'applique pas, ne fait pas d'efforts.
Voilà, pas soigné. Et donc, du coup, l'estime de soi, ben, elle en prend un coup.
Absolument.
En fait. Et ça en prend un coup dès qu'on est enfant. Ça veut dire qu'il y a quand même des enfants et des ados aujourd'hui qui partent à l'école ou au collège en ayant la boule au ventre.
Absolument.
Qui ne veulent plus y aller. Hein, ça provoque aussi, ça peut provoquer de la phobie scolaire.
Bien
donc,
sûr.
Attention. Et puis, ben, c'est surtout qu'après, ces enfants qui ont été... traumatisés, quelque part, à l'école et au collège, quand ils sont adultes, bah, la confiance, ils ne l'ont pas, en fait.
Complètement. Et oui, parce qu'ils sont en pleine construction. Donc,
c'est ça.
Bien sûr. Alors, maintenant, Valérie, tu nous as choisi donc, une deuxième pause musicale. C'est « Ma jolie » de Claudio Capeo.
Petite fille, a les yeux mouillés ce matin. Mais ce n'est pas la pluie, ce sont ses petits copains qui lui disent qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle ne vaut rien. De l'avoir pleuré, ça leur fait peut-être du bien. Elle noircit des pages, elle écrit des poèmes qui parlent de voyage. De l'âge, mais ce n'est qu'une enfant qui prendra le large un jour évidemment. Tu verras ma jolie, le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie. Tu verras ma jolie, bientôt tu riras si fort. Dans la classe, elle veut être invisible, se fondre dans la masse. Pour elle, y'a pas d'amour, y'a que des juges en cartable qui l'attendent dans la cour. De quoi est-elle coupable? Elle prend sa guitare pour s'évader un peu, se fait des histoires du prince merveilleux, dessine des mirages. Avec ses yeux d'enfant, tu prendras le large et d'abord prends le temps. Tu verras ma jolie, le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie. Tu verras ma jolie, bientôt tu riras si fort que la terre tremble. Sur son cahier, elle se dit à elle-même, tu verras ma jolie, Le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie. Tu verras ma jolie, ma jolie. Le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie.
Les auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, Valérie Sébastiani-Vigneron nous parle de graphothérapie. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle est disponible en podcast sur le site de la radio, ordradio.fr, dès la fin de l'émission. Alors Valérie, dis-nous un peu plus, comment se passe un bilan en graphothérapie à ton cabinet La Chouette Écriture ?
Alors ben déjà, on prend un rendez-vous. Le bilan, il va durer 2 heures et un petit peu plus des fois parce que je vais au rythme de la personne qui vient. Et il est découpé en fait en 2 parties. Une partie qui dure à peu près 1 heure et quart où je pose toutes les questions qui vont m'aider à comprendre le fonctionnement de la personne.
D'accord.
Donc là, plus sur, tu vois, la neurologie fonctionnelle.
D'accord.
Il faut savoir que les mots MAUX viennent de la grossesse, de l'accouchement, des étapes motrices. Donc, je parle de tout ça, en fait. Bien sûr, on a tout ce qui est ouverture du possible dès le départ. Donc, je demande la couleur préférée, son style de musique, qu'est-ce que la personne préfère manger. Tout ça, ça me donne des indications pour mieux comprendre. Savoir si, par exemple, quand on va faire les tests, est-ce que je vais devoir ouvrir ma fenêtre ?
Une mise en confiance aussi, peut-être ?
Oui, aussi, on casse la barrière. Mais tu vois, quand il fait froid, je mets un petit ventilateur pour avoir cette sensation d'air, en fait.
Oui.
Sinon, j'ouvre réellement ma
fenêtre. Oui, je comprends.
Ça dépend comment on est né. Tu vois, ça, c'est lié à la naissance, par exemple. Je fais faire une démonstration de 4 pattes. Alors, pas de ramper, mais de 4 pattes, juste pour vérifier comment il a été fait. Et puis après, bien sûr, je vais poser toutes les questions, savoir si on a fait... est-ce qu'on a écrit des lettres en miroir ? Est-ce qu'on a écrit des chiffres miroir ? Parce que tout ça, c'est lié à l'étape motrice du rampé. Donc, des fois, effectivement, quand les adultes viennent, même des fois les parents d'ados, pour peu qu'ils ont eu plusieurs enfants, ne se rappellent pas forcément comment le rampé ou le quatre pattes a été fait.
Ouais.
Et donc, du coup, grâce à cette question de chiffres et de lettres en miroir... je sais s'il est bien ou mal fait.
D'accord. C'est incroyable.
C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment... Donc, tout... Voilà, pendant 1 heure et quart, c'est vraiment plus toutes les questions d'un protocole, comme m'a dit une fois une consoeur orthophoniste. Elle pose les mêmes questions que moi, mais parce que ça fait partie d'un protocole. Or, moi, derrière chaque question, il y a un sens derrière pour pouvoir aider cette personne qui vient me voir, qui est en souffrance, mais vraiment... Et puis après, on a à peu près 45 minutes de test, mais on ne fait pas que de l'écriture. On va tester le mouvement oculaire, comme on l'a dit tout
D'accord.
à l'heure. On va tester l'œil de vision de loin, mais aussi, puisque j'ai une formation en neurologie fonctionnelle, je vais tester l'œil neurologique.
D'accord, c'est quoi ? C'est l'œil directeur ? Tu expliques-moi.
Alors, il y a l'œil directeur de la vision de loin qui, lui, te sert à viser quelque chose.
D'accord.
Voilà. Et l'œil neurologique, c'est celui qui va plus le détail. Tu vois, c'est pas la vision de loin. C'est-à-dire,
D'accord.
où est Charlie, par exemple.
Tout à fait, je vois.
C'est ton œil directeur qui va balayer et c'est celui-là qui va voir tout de suite où il est.
D'accord.
Fait. Donc, c'est ça qu'on cherche à savoir parce que, justement... l'œil neurologique va être déterminant ainsi que le pied directeur. Donc moi, je fais shooter dans un ballon pour avoir le pied. Ou je regarde aussi, je prends des photos pour voir lequel est le plus ancré dans le sol. C'est pour ça qu'on travaille pieds nus. Et je travaille pieds nus aussi. Pour déterminer la main directrice, l'œil directeur neurologique, le pied d'appui. Parce que ça va me permettre, par exemple... de placer la personne idéalement devant un tableau, devant un écran d'ordinateur, devant une télé, pour supprimer cette fatigue neurovisuelle et que la personne puisse se concentrer sur autre chose.
D'accord.
Donc je fais tout ça, c'est assez complet. Oui. Il y a évidemment, graphothérapeute, il y a de l'écrit, hein, c'est sûr. Donc il y a des tests de vitesse qui durent 2 fois 1 minute. Il y a un test d'endurance qui dure entre 3 et 6 minutes suivant le niveau où on en est. Une dictée, mais je précise systématiquement.
Il n'y a pas de bon point.
Il n'y a surtout pas de notes.
Il n'y a pas de notes, bien sûr.
Et c'est surtout que ce n'est pas la peine de me demander où est-ce qu'il y a les fautes d'orthographe, puisque ce n'est pas
oui,
ça.
C'est pas le but.
C'est pas le but.
Oui.
Moi, mes outils de travail sont la règle, la loupe et mon crayon de couleur. Ouais. Donc, je ne vois pas ce
on
que ça...
On s'en fiche.
Ouais, la faute d'orthographe, ça passe pas, quoi.
Enfin, bien sûr.
Je la vois pas.
Bien sûr.
Et même si, des fois, c'est les fautes d'orthographe qui rendent illisible.
Oui.
Mais c'est pas mon but ici. Je ne suis pas orthophoniste et je vais pas diagnostiquer la dysorthographie.
Oui.
Moi, je m'occupe que de la dysgraphie et c'est déjà pas mal.
Oui, tout à fait. Alors, tu as écrit un livre, Mon écriture, toute une histoire. De quoi parle-t-il ? Est-ce un livre pour enfants ?
Alors non, c'est pas un livre pour enfants. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde, j'ai envie de dire.
D'accord.
C'est-à-dire que les enfants peuvent le lire. Il est assez simple, il
D'accord.
est assez court, il fait que 70 pages, donc c'est assez court quand même. Et dans les 70 pages, il y a des préfaces, il y a des indices. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire que je raconte, ou que du moins je fais raconter à un enfant, on a semé des indices visuels avec Diane Castel qui a fait les illustrations.
D'accord.
Ou moi dans les écrits, par
D'accord.
exemple, et je les reprends dans la dernière partie du livre, pour justement expliciter les petits indices qui sont liés, j'ai envie de dire, aux questions également que je pose en bilan. Et c'est donc un enfant qui raconte, je fais raconter à un enfant devenu adulte, hein, bien sûr, mais
oui.
Qui raconte tout ce qu'il a vécu, c'est-à-dire la rencontre des parents, le fait qu'il soit arrivé alors qu'il n'était pas forcément attendu,
oui.
Qu'il a eu le cordon autour du cou, qu'est-ce que ça implique. Son mauvais quatre pattes, son mauvais rampé, évidemment,
oui.
Voilà. Les forceps aussi, parce qu'il a eu les forceps, et donc ça explique tout un tas de choses. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, il en a eu marre, parce que de la maternelle jusqu'au collège, voire lycée, on lui a dit que son écriture, elle était sale, trop petite, trop
oui.
grande. Et puis, quand on lui disait qu'elle était trop grande, lui, du coup, il réduisait. Mais quand on lui disait qu'elle était trop petite, du coup, il réagrandissait.
Oui, il s'adaptait.
Et donc, du coup, à ses 18 ans, il a décidé de se prendre en main et de dire « Bon, moi, j'en ai marre de prendre toutes ces remarques, là, ça suffit. C'est mes 18 ans, je vais aller voir sur Internet qui peut m'aider. » Et donc, du coup, il a découvert graphothérapeute. Il m'a découvert, moi aussi. Et donc, il vient à mon cabinet avec ses parents qui sont très curieux de savoir ce que c'est cette graphothérapeute. Et on fait les bilans. Il y a la restitution des bilans. Et pour qu'une histoire se termine bien et que je précise bien que ce n'est pas l'histoire de Juliette que j'ai racontée, mais bien l'histoire d'Octave,
bien sûr.
Qui est un enfant de tout ce qu'il y a de normal, on va dire. Hein. C'est tenté qu'on peut dire un enfant normal, mais bon, voilà. Et je permets à cet enfant, en fait, d'avoir son bac. Et c'est pas parce qu'on est dysgraphique. Qu'on est dyslexique ou qu'on est atteint d'un trouble 10, qu'on ne peut pas avoir son bac.
Bien évidemment, ça n'empêche pas effectivement
ça
d'avancer, de se projeter dans la vie au même titre que n'importe qui d'autre en fait.
Exactement.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que du coup, il a eu son bac avec mention,
c'est
tant
génial.
Qu'à faire. Et il intègre l'école de la magistrature
ouais,
parce que
super.
Lui, il voulait être juge pour enfants ou avocat pour enfants. Mais voilà, et c'est très bien. Et c'est comme ça que se finit l'histoire.
C'est génial.
Et puis derrière, voilà, j'ai repris...
Donc c'est à la fois pédagogique, ludique aussi peut-être, puisque pour la bonne compréhension de celui qui va lire ton ouvrage, mais c'est tout bénéfice.
C'est tout bénéfice, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir s'identifier
ouais.
et se dire, y a quand même de l'espoir que je puisse arriver à ce que j'ai envie.
Bien sûr.
Voilà. Ça s'adresse aux parents, parce que ça leur permet de comprendre finalement...
Ouais.
Pourquoi il y a ça, qu'est-ce que ça amène, etc.
Ouais.
Ça s'adresse, j'ai envie de dire, à tout professionnel de la santé, du bien-être, qui pourrait avoir ses clés, mais ça peut aussi s'adresser à des enseignants pour les amener aussi à comprendre ou à décrypter. Parce que moi, dans mon bilan graphomoteur, même si j'ai posé plein de questions de l'ordre du médical, hein, parce que l'accouchement, oui, etc., ça ne ressort pas sur mon bilan. Mais si on a des clés, on peut savoir, on se dit, ah tiens, elle a demandé ça, c'est que. Et donc, du coup, il faut qu'on le fasse pour l'enfant, en fait.
D'accord.
Donc, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout public.
Bah, c'est très chouette,
voilà,
cette affaire-là.
Et il est en vente à mon cabinet ou sur les salons auxquels je participe.
D'accord. Alors, justement, tu animes aussi des ateliers sur les troubles neurovisuels. En quoi cela consiste-t-il ?
Alors, les ateliers en troubles neurovisuels se passent le mercredi soir de 18h30 à 20h30. Ils sont destinés aux adultes. On peut avoir avec des enfants, j'en ai fait un justement avec une jeune fille qui était au collège et qui voulait comprendre ça pour pouvoir aider ses camarades de classe. Et pour elle, ça a été très lourd émotionnellement parce qu'en fait, elle s'est aperçue que finalement, elle aussi, elle avait un petit trouble.
Ah.
Mais qui était passée à côté parce que c'est une enfant qui était performante et il y avait des choses effectivement qu'elle n'avait pas. Alors ces ateliers se font par groupe de 3 ou de 4 pour,
d'accord,
que ce soit vivant et intéressant. Et on est tous, enfin, à part moi bien sûr, puisque je suis forcément observatrice, mais sinon, les personnes qui participent sont à la fois observateurs et après ils seront observés chacun leur tour, mais on commence aussi par poser une seule question, savoir s'ils connaissent leur histoire de naissance.
Ça doit les interpeller quand même que tu poses cette question là parce que c'est très intime, très personnel.
Ouais,
ils ne la connaissent pas forcément.
Et ils ne la connaissent pas forcément, mais quand ils la connaissent, c'est chouette parce,
ouais,
qu'effectivement, soit je vais ouvrir ma fenêtre, soit je vais mettre le ventilateur,
ouais,
pour les aider. Puis moi, je veux que ça soit aussi interactif.
D'accord.
Et c'est important pour eux aussi. Et je les prive soit de la verticalité oculaire, donc en mettant du scotch sur les lunettes,
d'accord,
à certains endroits, soit je vais les priver de la latéralité oculaire, donc je vais mettre un cache de pirate sur un œil.
D'accord.
Évidemment, je prends l'œil qui n'est pas l'œil de vision, tu vois, pour que justement ce soit plus compliqué, sinon c'est trop facile. Et après, on compare les écritures. Alors, on compare, la personne compare sa propre écriture entre la latéralité qui en général est soit très très large.
D'accord.
Ou alors tout serré. Par exemple, des personnes qui vont écrire les mots collés les uns aux autres.
Oui, je vois.
Ou alors qui vont laisser, entre chaque mot, tu peux réécrire un mot, quoi, en fait. Donc très, très large.
Ouais.
Donc ça, c'est la latéralité. Donc,
d'accord,
ça, on le voit tout de suite. Et la verticalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui vont écrire soit très, très grand, soit tout petit. Et donc, on le voit assez bien quand ils écrivent, puisque forcément, au début, ça va. Et puis après, mince, on ne voit plus rien. Et en fait, je vous fais vivre ce que vivent les enfants, les adolescents ou les adultes qui ont ce qu'on appelle la dyslexie visuelle.
Ah, d'accord, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Ils doivent être, ils ont un sentiment de fatigue à la fin de cet atelier. Comment ressortent-ils justement de ton atelier ?
Alors justement, c'est le but aussi, c'est de que ça dure pas trop trop longtemps, c'est-à-dire que chaque intervenant, on va dire, quand il est observé, ça dure 1-2 minutes grand maximum.
D'accord.
Parce que sinon, tu vois, notre cerveau étant bien occupé, ça peut influencer sur des maux de ventre, ça peut influencer, justement, on ne voit plus rien, par exemple. Alors, je ne les rends pas aveugles, hein, attention.
Oui, oui.
Mais c'est vrai qu'à un moment donné, la vue peut se troubler, ils sont obligés de forcer, et donc ça a fait une fatigue oculaire.
Oui.
Donc moi, par exemple, quand j'ai été formée pour faire cet atelier et que je l'ai vécu, nous étions en groupe de 16, et c'était fait par la neurologue. Il y en a quelques-uns qui ont fini aux toilettes, effectivement, pour vomir, parce que ça a impacté
c'est incroyable,
la flore intestinale et tout ça. Donc, c'est vraiment énorme, vraiment.
Je comprends.
Et donc, du coup, oui, ça les titille un peu. Ça permet de voir, des fois, ils sont persuadés de bien tenir le stylo, et puis pas du tout. Ils sont persuadés que leur écriture... Alors, en fait, on le fait en 3 fois. C'est-à-dire, une première fois où t'écris... Et c'est OK avec ta vision classique, hein, j'ai envie de te dire. Après, on le fait une fois avec... Donc, je vous supprime la verticalité. Et là, une troisième fois où je supprime la latéralité pour justement voir les différences.
Ça doit être étonnant à voir, je pense, visuellement, pour quelqu'un qui observe.
Ouais, et puis, on observe tout. C'est-à-dire qu'on va voir l'écriture de la personne, c'est vrai. Mais par contre, on va observer les pieds. Donc, c'est un atelier qui se fait pieds nus, là encore, pour justement
voir l'ancrage.
Oui, ce
que tu disais par rapport à l'ancrage, oui.
Voilà. Et puis, je demande aux participants, en général, de venir avec leur propre stylo. Comme ça, il n'y a pas de... Ah oui, mais avec ce stylo-là, je n'écris pas bien.
Et oui, il y a le stylo de confiance.
Le stylo de confiance. Celui auquel on est attaché.
Complètement.
Et qui, souvent, n'est pas bien, mais ce n'est pas grave. En fait, voilà, je vais le dire tout de suite, le stylo le plus adapté à l'écriture, c'est le stylo plume.
Ah bon ? Pour quelle raison ?
Parce qu'il glisse tout seul.
D'accord.
Et donc, du coup, ça ne raccroche pas dans la feuille, on n'a pas besoin d'appuyer. Voilà. C'est le stylo plume, c'est la Rolls Royce des stylos.
Bon, je vais faire des tests prochainement. Alors, Valérie, tu nous as proposé un autre choix musical, donc avec Trop Forte de Morane. Nous allons écouter maintenant.
Merci.
Portes à pousser larges comme des chats d'aiguille. Les barrages à passer, faudrait être une anguille. Un peu maigre, un peu lisse pour entrer comme Alice au pays merveilleux. Au pays merveilleux. On nous farcit les yeux sur affiches sous vitrine, d'espèces de drôles de tiges qui se collent des vertiges à force d'être au régime. On est toujours trop quelque chose, trop pas assez, trop pas assez. Je suis trop forte, moi je suis trop. Jusqu'ici. J'ai connu toutes les appellations contrôlées, dès la cour de récréation, ça trempe le caractère. La bonhomie des gros, c'est rien que de la colère, stockée sous la peau. Inventer des mots de remplacement pour mieux nous insulter. Correct politiquement, t'es pas grosse, non t'es ronde, corpulente, enveloppée. L'hypocrisie du monde aussi, je la connais. Je la connais. Je suis trop forte, moi je suis trop forte.
Auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, avant la pause musicale, Valérie Sébastiani-Vigneron nous a parlé de graphothérapie. Si vous voulez réécouter l'émission, elle sera disponible en podcast directement sur le site de la radio ordradio.fr dès la fin de l'émission. Alors Valérie, pour conclure sur le sujet d'aujourd'hui, comment fait-on pour te joindre ?
Alors, pour me joindre, on va me joindre d'abord par téléphone au 07 86 75 41 27. 07 86 75 41 27. On peut me joindre également par mail à lachouetteécriture@gmail.com.
En minuscule ou en majuscule ?
Alors, tout en minuscule, tout accroché. Et attention, il y a le E final de chouette suivi du E initial de écriture. C'est-à-dire qu'on a deux E.
D'accord.
En fait, côte à côte. Et puis, on peut me trouver aussi sur différents salons de la santé et du bien-être auxquels je participe. Mais là, voilà, pour l'instant, j'en ai pas avant le mois de juin.
D'accord.
Et j'y participerai, bien sûr, avec mon livre qui sera en vente. Et ça sera avec plaisir qu'on vous donnera les dates ultérieurement. Et puis, comment on fait pour me retrouver ? Parfois aussi, vous pouvez me trouver sur des sites, puisque j'ai mon propre site internet qui s'appelle lachouetteécriture.fr. Et pareil, tout accroché, tout en minuscules et avec les deux E. Et puis, dans des réseaux d'entrepreneurs, comme par exemple Être à ta santé, qui est une association à ce nom et qui regroupe tous les praticiens et praticiennes qui le souhaitent et qui nous parlent de santé et de bien-être.
D'accord. Alors justement, en parlant de salon, donc, il y a le salon du bien-être à Blanquefort le samedi 28 février et dimanche 1er mars. Notez bien sur vos tablettes. Christelle Van Nutfel, si je prononce bien, qui est venue nous parler du Feng Shui tibétain, il tient un stand et fera une conférence à 16h30 le samedi 28 février. Voilà, donc, nous, comme vous le savez dans notre émission, il y a toujours une importance qui est portée par rapport au don du sang. Alors, je vais vous donner donc les prochaines dates, notamment aujourd'hui. Alors, vous pourrez aller faire don de votre sang ce mardi 24 février à Créon, à l'espace culturel de 15h à 19h. Ce même jour, à Coutras, à la salle polyvalente de 15h à 19h, nous allons passer à mercredi à Talence, mercredi 25 février à Talence Espace François Mauriac de 15h à 19h. Même jour également à Pessac, salle de l'Orangerie de 15h à 19h. Jeudi 26 février à Blaye, alors c'est MS PLA, salle du Liverneuf de 10h à 19h. Donc vous avez une latitude quand même importante. Le vendredi 27 février à la salle des fêtes dans la commune de Salles de 15h30 à 19h. Nous arrivons aussi donc même jour à Villeneuve-d'Ornon à la salle d'Aguin de 15h à 19h. Et nous passons au lundi 2 mars. Déjà, nous sommes au mois de mars à Pessac, à l'IEP, à la salle A115. Étage, si je lis bien, à porte 126, à vérifier, de 13h à 17h. Ce même lundi 2 mars également à Blanquefort, à la salle polyvalente de Fontgravé, de 15h à 19h. Et nous allons nous arrêter au mardi 3 mars à Bordeaux, le CAPC Café du Musée. Donc, je pense que c'est la salle J, de 11h à 18h30. Voilà, nous en avons fini pour les dates donc de don du sang. Et il ne me reste plus qu'à te remercier, Valérie, de nous avoir parlé de graphothérapie. La semaine prochaine, nous recevrons Julie Lavigne.
Mais merci à toi de m'avoir accueillie.
Merci à toi, Valérie. C'était un plaisir.
Merci à Fred pour la technique. Et merci vraiment, merci, Juliette, pour cette belle émission et pourvu qu'elle dure
avec grand plaisir,
longtemps.
Valérie. À bientôt.
À bientôt.
Get lost.